Alors revenons à un ouvrage qui a fait votre succès, la couleur bleue. Est-ce qu'on peut revenir justement sur cette couleur qui est, selon les sondages, la couleur préférée des Français, sans aucun doute. C'est un peu une couleur universelle, en passant du vêtement, comme on l'a vu, ou même, par exemple, pour notre équipe de foot, c'est un peu normal, du coup. Mais justement, parler du drapeau tricolore, avec la place aussi du bleu, du blanc et du rouge, est-ce que ces trois couleurs ont joué un rôle en France avant aussi la Révolution?
Oui, il y a un bleu français de longue durée, si je puis dire. Les enquêtes d'opinion, en effet, montrent, depuis qu'on a des enquêtes d'opinion, c'est-à-dire depuis la fin du XIXe siècle, avec une belle régularité, que non seulement en France, mais en Europe occidentale, partout, le bleu est la couleur préférée, loin devant les autres couleurs. Le bleu, c'est presque 50% des réponses, quand on demande quelle est votre couleur préférée. Ensuite vient le vert, moins de 20%, puis le rouge, le noir, le blanc... Et le jaune, qui est très à la traîne. Ce qui est fascinant pour l'historien, d'ailleurs, c'est que depuis qu'on a des enquêtes d'opinion, les résultats sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que les mutations technologiques, les changements de société, ça n'a pas de prise sur ce type d'enquête. Donc je peux vous assurer que dans 20 ou 30 ans, les résultats seront encore les mêmes partout en Europe, et notamment en France, où le bleu dépasse 50% des réponses. Le score est le même, d'ailleurs, pour les hommes et pour les femmes, et pour les différentes catégories socio-professionnelles. Il n'y a guère que chez les petits-enfants, où ça donne des résultats un peu différents. Donc il y a un bleu européen, et puis il y a un bleu particulièrement français qui est là bien avant l'apparition de la cocarde tricolore et du bleu des soldats de la République à la fin du XVIIIe siècle, parce que le roi de France, depuis le XIIe siècle, a des armoiries à fond bleu, d'azur semées de fleurs de lys d'or. Et au fil du temps, les emblèmes de la monarchie ou de la dynastie ont tendance à devenir les emblèmes du gouvernement, les emblèmes de l'État et enfin les emblèmes de la nation. Quand au XVIIIe siècle, un Anglais veut mettre en scène un Français, il l'habille de bleu, de même que le Français l'habillera l'Anglais de rouge et l'Allemand de vert. Il y a une tradition.
Mais encore aujourd'hui, même dans les films, c'est incroyable. Dès qu'on veut représenter un Anglais, on le met en rouge, et un Français, on le met en
bleu
aussi.
Donc ça vient de loin, ouais. Et c'est confirmé par des pratiques de toutes sortes. Et le bleu monarchiste, sous la Révolution, se confond avec le bleu républicain. Au XIXe siècle, il reste fortement républicain, le bleu national, mais il a tendance, de progressiste qu'il était sous la Première République, à devenir un peu plus conservateur au fil du temps. Se déplacer vers le centre, puis vers la droite, d'où la chambre Bleu Horizon, par exemple, en 1919, qui est une chambre plutôt réactionnaire.
Oui.
Mais donc, il y a un bleu national, et moi, quand j'ai fait mon service militaire, on m'a appris à plier le drapeau tricolore, et donc c'était dans les années 70, et j'ai appris que le bon usage voulait qu'on cache le rouge et le blanc, et qu'on ne voit que du bleu quand on plie les couleurs de la France. Sur les terrains de sport, les joueurs français... qui sont souvent tricolores, sont appelés les bleus. Le bleu est dominant. La France est bleue, et pour tous les pays voisins, un Français, c'est un homme habillé en bleu.
Et justement, dans le spectre politique aujourd'hui, est-ce que, donc on a vu notamment lors de la dernière campagne présidentielle des références au bleu, blanc, rouge, à la fois chez les socialistes et chez la droite, aujourd'hui finalement les couleurs bleu, blanc, rouge sont partagées universellement sur tout le spectre politique, ou est-ce que le drapeau rouge par exemple a disparu? Est-ce que la couleur rouge a disparu des références?
Non, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord les couleurs nationales. Donc elles sont en effet bleu, blanc, rouge. C'est apparu sous la Première République. Ça a reculé avec la Restauration. C'est revenu sur le devant de la scène en 1848. Puis ça n'a plus changé jusqu'à aujourd'hui. On a évité le drapeau blanc après le Second Empire. Mais il y a donc le bleu, blanc, rouge national, qui est à la fois étatique et national. Qu'est-ce que la nation? Qu'est-ce que l'État? Ce sont des problèmes très, très compliqués. La France est un pays où la naissance de l'État a précédé de presque 10 siècles la naissance de la nation. Donc ça pose des problèmes particuliers. L'Allemagne ou l'Italie, c'est le contraire. La naissance de la nation est bien plus ancienne que la naissance de l'État. Donc le rapport aux couleurs du drapeau n'est pas le même dans les différents pays. Et puis, il y a les partis politiques qui ont des couleurs politiques qui se déplacent. Le rouge en politique en Europe est très très à gauche, donc du demi-rouge, du rose, c'est un petit peu moins à gauche, mais au fil des décennies, le drapeau rouge est débordé sur sa droite par le drapeau noir, qui autrefois était le drapeau plutôt des partis cléricaux, voire de la réaction, hein. Sous la Première République, la cocarde noire, c'est la cocarde de Marie-Antoinette de la Maison d'Autriche. Donc les extrêmes finissent par se rencontrer, ça complique beaucoup les choses, d'autant que la palette de couleurs dans laquelle on peut puiser n'est pas très très développée, donc une même couleur peut avoir plusieurs significations. Mais évidemment, c'est passionnant à étudier, souligner les différences d'ailleurs entre les pays et même entre les continents. Par exemple, aux États-Unis, les démocrates, qui sont plutôt plus à gauche dans nos classements que les républicains, s'emblématisent par le bleu, qui serait nous, serait plutôt conservateur. Voilà, donc on ne peut pas raisonner dans l'absolu, il faut travailler dans un contexte précis.
Mais même aujourd'hui, un parti même qui se résume par une couleur, les Verts, qui sont eux-mêmes dans leur parti une couleur.
Oui, c'est quelque chose d'assez nouveau, à la fois que le nom de la couleur devienne le nom d'un parti, et en même temps c'est un phénomène suffisamment fort pour qu'aujourd'hui, dès qu'on prononce le mot vert, ça a une signification écologiste, politique. C'est très récent, hein, cette idée d'associer la couleur verte et la nature, ça date de l'époque romantique. Auparavant, la nature, elle n'est jamais verte, l'idée de nature. La nature, c'est les quatre éléments, donc c'est le feu, la terre, l'air et l'eau. C'est-à-dire que la nature a quatre couleurs. Puis à partir de l'époque romantique, il y a une espèce de synonymie entre végétation et idée de nature. Ça, c'est assez nouveau. Et donc, végétation, c'est le vert. Et donc, le vert devient progressivement la couleur de la nature. Et aujourd'hui, on vit avec ça, nous, bien sûr. Mais pour l'historien, c'est pas de toute éternité, tant s'en faut.
Alors, les quelques mots que vous nous avez accordés, là, montrent bien que vos travaux montrent que l'histoire de l'héraldique, l'histoire des couleurs, l'histoire des symboles que vous avez eu du mal à imposer au départ est d'une richesse assez importante. Vos travaux ont-ils fait des émules, Michel Pastoureau ?
Oui et non. Donc ce qui était un handicap au départ, ces sujets bizarres qui relevaient pour une part de la petite histoire, etc., c'était un handicap, mais assez rapidement, je dois avouer quand même que le balancier s'est inversé. Et au contraire, il y a eu un moment, j'étais encore un jeune chercheur, où « Ah, ces choses étonnantes que fait Pastoureau, etc. » Donc l'histoire des mentalités, la sémiologie, finalement j'ai bénéficié de tout cela et je suis plutôt un privilégié dans ma recherche. Mais malheureusement, mes étudiants n'ont pas ces mêmes privilèges. Moi, j'appartiens à une génération où tout était plus facile, où, comme je le disais, les barrières étaient tombées, partiellement en tout cas, entre les sciences humaines et même entre les sciences humaines et les sciences naturelles. Tout ça a été très, très effervescent pour la recherche. Aujourd'hui, avec toutes les crises que vous connaissez, les barrières sont en partie revenues et surtout, on demande aux étudiants et aux jeunes chercheurs des étiquettes claires. On ne peut plus être à cheval sur histoire antique, histoire médiévale, mais vous êtes antiquisant, vous êtes médiéviste, vous. Et si on est candidat à quelque chose et qu'on est à cheval sur histoire de l'art et histoire littéraire, par exemple, on va être chassé de partout, parce que comme il y a 100 candidats pour un poste, on demande des étiquettes extrêmement précises, ce qui, du point de vue intellectuel, est une régression, une forte régression. On sait très bien que en sciences dures comme en sciences humaines, les véritables découvertes font au carrefour des disciplines, plus qu'à l'intérieur même d'une discipline. Aujourd'hui, je suis assez inquiet du point de vue intellectuel. On le voit dans des domaines inattendus. Par exemple, la nouvelle la BNF à Tolbiac à Paris classe le savoir selon différentes salles, comme une espèce de supermarché du savoir, alors que la BN précédente avait une seule salle et on pouvait demander dans la même salle et trouver tous les outils qu'on voulait dans différentes disciplines. Moi qui travaille sur la couleur, dans la même heure, j'ai besoin d'un livre de philologie, d'un livre d'histoire de l'art, d'un livre de chimie et d'un livre sur l'histoire du vêtement. Ça correspond à quatre salles différentes à la BNF. Alors bien sûr, on peut circuler et faire venir à sa place tous les livres, mais peut pas changer les usuels de place, par exemple, etc. Ça me semble très emblématique de cette réduction de l'effervescence intellectuelle et de la sectorisation qui est de plus en plus accentuée, modèle venu sans doute des sciences dures, et je crois que c'est assez inquiétant. Plus tous les problèmes liés, bien sûr, aux sciences humaines en général. Donc mes étudiants qui essayent de faire comme moi sont plus handicapés que je ne l'ai été quand j'avais leur âge, et je le regrette beaucoup. Cela dit, j'ai peut-être plus formé d'étudiants pour l'histoire des animaux, de la zoologie, des végétaux même, et des couleurs que pour l'héraldique, l'emblématique et ces domaines-là qui restent quand même un petit peu marginaux, malheureusement.
Et oui, une dernière question tout de même qu'on n'a pas évoquée, c'est dernièrement, vous êtes lancé à un exercice que font pas mal d'historiens, vers la fin de la carrière plutôt, c'est l'égo-histoire. Vous êtes lancé dans le roman, toujours amoureux des couleurs. Alors, pourquoi ce besoin de vous lancer dans cette nouvelle aventure, j'ai envie de dire ?
C'est l'âge, hein, c'est signe qu'on vieillit. Il y a un âge à partir duquel on a un peu envie de se raconter. C'est parce qu'il y a un besoin. Donc moi, j'ai voulu raconter un peu d'où je venais, comment était né ce goût pour les couleurs, les animaux, les armoiries, les images. Ça vient presque de l'enfance et de la petite enfance, donc chez moi, des traditions familiales en partie, de cette rencontre avec ce prof de dessin au lycée, etc. Ce livre, donc, qui est en partie autobiographique, en partie seulement, qui est un peu un prétexte à disserter sur les rapports entre couleurs et société depuis 50 ans, quoi, enfin, depuis que je suis enfant, c'était l'occasion de montrer, à partir d'exemples personnels, d'anecdotes, d'historiettes, ce que j'avais vu en matière de changement dans le domaine de la couleur, mais aussi les permanences, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a pas mal de choses qui ne changent pas. Et dans ma réflexion d'historien, ça m'a conduit à finalement me dire que on s'extasie devant les mutations, mais on oublie les permanences. Et quand je pense à ce qu'était ma vie quotidienne, par exemple, il y a 30 ans, je m'aperçois qu'elle n'était pas très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Hein. Malgré tout ce qu'on dit sur l'accélération de l'histoire, les mutations de la société, etc., les technologies nouvelles et tout, c'est vrai, bien sûr. Mais ça n'a pas tellement changé les rythmes de la vie quotidienne et les préoccupations des uns et des autres, les chagrins et les joies. Et je pense que ça va continuer comme ça.
Eh bien, en tout cas, merci Michel Pastoureau pour toutes vos réponses. Je tiens aussi à remercier Jean-Michel Poisson. Et on passe sans plus tarder à la fameuse chronique annoncée qui va nous parler de Bretagne et de l'hermine de ces Bretons.
Oui, parce qu'en effet, Michel Pastoureau, vous avez il y a peu contribué dans un article qui s'appelle « L'hermine de l'héraldique ducale à la symbolique de l'État ». Donc je vais essayer de revenir assez succinctement sur cette affaire, sur d'où vient finalement l'hermine bretonne, puisque le drapeau breton, on le voit partout maintenant. Au dernier festival de musique de Benicassim en Espagne, il y avait au moins trois drapeaux bretons au festival. Donc je voulais savoir d'où vient l'hermine de Bretagne. Alors en fait, pour faire simple, Pierre de Dreux, qui devient le baïstre de Bretagne en 1213, amène avec lui en fait son blason, si j'ose dire. Et c'était donc Pierre Mauclerc, en fait, il était destiné à la carrière ecclésiastique, et donc sur son blason de la famille de Dreux, capétienne, avait installé un quartier d'hermine qui était donc la tribu des ecclésiastiques. Donc en fait, au départ, l'hermine n'est pas du tout un symbole breton, il vient d'une maison capétienne, et qui plus est, un simple attribut de clerc. Sauf qu'en 1316, il va y avoir un événement majeur qui va bouleverser la vie de l'hermine en Bretagne, c'est que le duc Jean III le Bon change son blason de la maison de Dreux pour n'en faire qu'un écu d'hermine plein, c'est-à-dire qu'on ne retrouve plus que l'hermine sur le blason. Alors comment expliquer ce changement qui va entraîner des bouleversements ? Alors il y a plusieurs raisons. Jean III entretient de très mauvaises relations avec sa marâtre Yolande de Dreux, et donc porter les mêmes armes ou les mêmes armoiries est également un élément de droit qui signifie partager l'autorité ducale. Et donc peut-être une explication pour ce changement d'armes. D'une part, les armes de Dreux sont aussi brisées une première fois, parce qu'il y a, les Hermines, et puis surbrisées une deuxième fois, avec un liseré rouge autour du blason, qui montre la double... le caractère du cadet, en fait, de cette maison de Dreux, et qui, forcément, pour une grande principauté naissante, n'est pas forcément le meilleur objet politique. Ça fait dans l'héraldique de la Bretagne une dépendance héraldique du petit comté de Dreux, dépendant lui-même du duché de Normandie. Donc pour un Breton, dépendre d'un Normand, ça va pas. Et donc on a plusieurs autres raisons. L'Hermine a gagné en prestige. C'est devenu au fur et à mesure le symbole des rois et des juges. Ça fait du duc de Bretagne un justicier. Je vais très vite, hein, mais en quelques mots. Et puis, il y a la thèse aussi que l'Hermine plein répond esthétiquement au semé des fleurs de lys du roi de France. Et que ça augmente en quelque sorte le prestige de la principauté. Alors, on retrouve l'Hermine dans d'autres blasons, puisque en fait les Montfort, qui accèdent au duché au XIVe siècle après la guerre de succession de Bretagne, étaient également vicomtes du Limousin. C'est pour ça qu'on retrouve par exemple des Hermines dans le blason du Limousin. Alors l'Hermine devient tout un symbole pour la Bretagne. On a l'ordre de chevalerie de l'Hermine, on a le château de Vannes imposant qui s'appelle le château de l'Hermine. Et petit à petit, ça rentre même dans la légende, puisque Anne de Bretagne, il y a toute une légende sur l'Hermine d'Anne de Bretagne qu'elle a vue. L'Hermine aurait préféré mourir plutôt que de se salir face à un marécage, ce qui fait ensuite la devise une des devises de la Bretagne, plutôt mourir que la souillure. Je vous épargne en latin ou en breton, mais il y a plusieurs versions. Là, l'Hermine se diffuse en Bretagne. Par exemple, les armoiries de Saint-Malo sont l'Hermine. Mais alors là, on a plusieurs représentations. L'Hermine de la Bretagne, c'est la simple moucheture noire. Celle de Saint-Malo, c'est l'animal en entier. Donc, on a très vite une association de l'Hermine avec, en plus, la couleur qui va bien, le noir et blanc. Puisque les soldats bretons pendant la guerre folle, par exemple, portent la croix noire, en comparaison à la croix rouge anglaise et à la croix blanche française. Donc ça crée un ensemble. Et même au XVIe siècle, certains prétendants à la couronne de Bretagne, comme Jean de Brosse, par exemple, portera des hermines sur son blason pour indiquer sa filiation avec les ducs de Bretagne. Et au XVIIe siècle, Richelieu, gouverneur de Bretagne, crée même un drapeau pour l'amirauté de son gouvernement et choisit logiquement la croix noire et les hermines. Et donc, on arrive, je fais un saut dans le temps pour aller vite, en 1923, où Morvan Marchal, qui est alors un architecte breton, crée le Guenadu, ce fameux drapeau blanc et noir, où on retrouve le quartier d'Hermine avec les bandes noires et blanches qui symboliseraient les évêchés de la Bretagne. Mais si on reprend le vrai drapeau de la Bretagne, celui de 1532, au temps de l'union avec le royaume de France, le drapeau est d'Hermine plein. En fait, le drapeau le Guenadu est un drapeau moderne qui a été stylisé par un architecte. Et ce qui est d'ailleurs très très proche du drapeau américain dans le style, c'est assez intéressant à montrer. Et surtout, le quartier d'Hermine renvoie au premier quartier, celui du blason de Pierre de Dreux finalement. Donc voilà, comme quoi l'Hermine qu'on voit sur tous les drapeaux de Bretagne aujourd'hui n'est pas bretonne. Elle vient de Dreux, d'un Capétien, mais ça en a fait un symbole aujourd'hui qu'on voit sur toutes les télévisions.
Merci Antoine. Est-ce que vous souhaitez réagir, Monsieur Pastoureau, à cela ?
Oui, l'Hermine n'a rien de breton à l'origine. Pierre Mauclair, cadet de la maison de Dreux, porte dans son écu une marque de cadet, le franc-canton d'Hermine. Il la porte en Bretagne et ses successeurs l'ont encore. Et comme vous l'avez dit, donc en 1316, le duc Jean III prend ce franc-canton d'Hermine, ce petit morceau d'Hermine, pour en faire la totalité de l'écu. C'est la partie qui devient le tout. c'est un coup de génie politique parce que ça crée visuellement une espèce de confusion avec les armoiries de France. Les armoiries ducales de Bretagne ressemblent aux armoiries royales de France avec cette constitution en semée. Aujourd'hui, je trouve que le Conseil régional de Bretagne a commis une grave erreur en choisissant pour logo une espèce de carte en forme de Bretagne et de flèche tournée vers l'avenir. Ce n'est pas très très réussi sur le plan esthétique, mais c'est surtout un refus des Hermines, peut-être dangereuse parce que affichée par les autonomistes, etc. Mais c'est quand même suicidaire puisque dans le monde entier, la Bretagne est connue par ses Hermines et la région refuse des Hermines. Il y a quelque chose là qui est accablant pour l'historien et pour le spécialiste de l'emblématique. C'est pas le seul cas d'ailleurs en France. Il y a pas mal de régions françaises qui ont des logos abominables d'abord du point de vue graphique. Il faut bien le dire. La Bourgogne, c'est invraisemblable. Un demi-B qui se prolonge par des demi-armoiries, c'est une laideur épouvantable. Et puis cette façon de refuser le passé, comme si le passé c'était honteux ou si c'était ringard. Il fallait absolument se tourner vers l'avenir. Je ne pense pas que ce soit un bon choix, surtout par rapport aux pays voisins, où on assume complètement l'emblématique des siècles passés. La France a un problème avec ça, qui perdure encore.
Qui vient en grande partie de la Révolution ou...
Qui vient de la Révolution, qui vient du régime de Vichy, qui va essayer de redonner vie aux emblèmes des régions, qui avait créé des armoiries de département, pas toutes réussies, certaines très réussies. On a un problème avec l'emblématique, on n'a pas de bons graphistes par rapport à tous les pays qui nous entourent. Ça se traduit pareillement dans l'emblématique sportive, dans l'emblématique des syndicats. Les logos, les emblèmes français sont toujours moins réussis, plus pauvres graphiquement et symboliquement que ceux de Suisse, ceux d'Allemagne, ceux de Scandinavie, ceux de Grande-Bretagne. C'est un vrai problème français.
Bien, nous terminons donc sur une note bretonne. C'était le dernier numéro de 20 minutes d'histoire pour cette année. Nous vous souhaitons donc une belle fin d'année à tous et Kenavo.